et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour, c'est Marie, et sois sage et parle fort. D'habitude, je fais une petite intro bien montée, bien préparée, bien rédigée. Là, j'ai pas de notes sous les yeux. Ça va être du freestyle, mais je pense que pour cet épisode, c'est peut-être plus intéressant. Ça va être drôle. C'est... je reçois la personne chez moi. On est dans un état normal, je vous rassure. Nous n'avons pas bu, rien consommé de particulier. Il sera sujet de beaucoup de choses. Il va y avoir un fil rouge. Et le fil rouge, vous allez le comprendre en écoutant la citation que je vais vous lire de Osho. Les gens ont peur, très très peur de ceux qui se connaissent intérieurement. Ces êtres ont une certaine autorité, une certaine aura et un certain magnétisme. Un charisme qui est capable de libérer de jeunes personnes de l'emprisonnement traditionnel. L'homme réalisé ne peut pas être asservi et il ne peut pas être emprisonné. Chaque génie qui a découvert quelque chose en son intérieur sera difficile à absorber. Il sera une force perturbatrice. Les masses ne veulent pas être dérangées, même si elles peuvent être dans la souffrance. Elles sont dans la souffrance, mais elles y sont accoutumées. Et celui qui n'est pas dans la souffrance apparaît comme étranger. Et j'ajouterai que dans une liberté totale, avec toutes les possibilités ouvertes, rien de fixé, vous devrez être conscient et rien d'autre n'est possible. Aujourd'hui, je reçois Camille, Donc Camille, bienvenue. Mmh. Tu es chez moi.
Hello Marie, merci tout d'abord pour cette belle introduction. Et avec plaisir.
Je suis content d'être là.
Avec plaisir de partager ce podcast. On va parler énormément de plein de choses.
Beaucoup de sujets. Je ne sais pas trop par où on va commencer, mais déjà, qui tu es ? Est-ce que tu es français ? De quel pays tu es ? Où est-ce que tu es né ? Où est-ce que tu as grandi ? Pas plus de questions pour la première fois, ça va être fort pour
moi. D'accord. moi, c'est Camille. J'ai 32 ans. Je vis en France, ça fait presque 7 ans. Et je suis né au Liban, d'une ville qui s'appelle Jounieh. Et j'ai vécu jusqu'à mes 25 ans au Liban. Ensuite, j'ai décidé de venir en France. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis là.
7 ans.
Yes.
T'as toujours été à Paris ?
Non, pas du tout. Je suis venu tout au début, c'était à Bordeaux. Je suis arrivé à Bordeaux en 2016 pour faire un premier master.
Ok.
Et ensuite, la vie, elle m'a appelé. Je suis arrivé sur Paris.
Tu connais d'autres personnes du Liban avec qui tu as bougé en France ?
Ah oui, je suis arrivé avec plein de potes d'enfance qu'on a décidé un jour. On était au Liban, après une grosse soirée, quoi, on se regarde, allez, on fait quoi ? Et on n'avait pas envie... On fait quoi dans la vie, c'est ça ? Et on se disait, on s'est regardé, vous savez quoi ? Fuck, on va partir...
Ailleurs.
À l'étranger, dans un autre pays.
Parce que c'était pas facile, la vie au Liban ?
Si, elle est très belle. Notre vie, ma vie déjà au Liban, elle était...
Ouais.
C'était les plus belles années de où j'ai grandi, ma culture. Je vais très bien là-bas. On faisait tout. On était des grands malades, quoi, des fous, quoi, là-bas.
Mais alors attends, avant d'en venir où t'étais fou ?
Oui.
T'as été un enfant ?
Ben oui. J'ai grandi là-bas, quoi.
Et tes parents, ils t'ont élevé comment ? Enfin, c'était des frères, des sœurs ?
Ben oui, j'en ai une seule sœur. Et j'ai été élevé dans une petite famille. On était à quatre, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de famille, quoi. Tout le temps, avec beaucoup d'amour, beaucoup... Voilà, donc papa, avec un père qui était... Mais il est décédé il y a 11 mois, mais... C'est encore récent, mais avec une bonté.
Un super papa,
quoi. J'arrive plus à trouver les mots, là, quand je parle de lui.
Et c'est marrant parce qu'en fait, on en a parlé un peu. Enfin, on en a parlé beaucoup, même.
Ouais.
Et en fait, on a les mêmes papas. Genre.
Exactement. On a le même caractère, le même type d'un papa, quoi.
Curieux, mais en même temps, qui a mis du temps à découvrir les choses. Et du coup, nous, on est là avec nos trucs et on leur fait découvrir des trucs. Et eux, ils nous ont aussi enseigné la vie, l'amour. Donc, papa, dédicace, je sais que tu m'écoutes.
Oui.
qui ont la tchatche, qui s'arrêtent pas de discuter, qui veulent refaire le monde, qui sont très charmeurs, très... Bref, on a les mêmes papas, donc c'était assez marrant de se rendre compte de ça.
Oui, je pense le même parcours, même des papas, leur parcours, on a déjà discuté tous les deux, comment ils ont arrivé, comment ils ont élevé la famille, le centre de la famille. Je pense qu'on a déjà parlé pas mal de choses et je valide, quoi.
Ouais.
Les super papas.
Il aurait
quoi.
Fallu qu'ils se rencontrent, mais bon.
Mais oui, dans une autre vie. On est d'accord. Ouais, et pour revenir à notre sujet, avec aussi une mère, une super mère, une jolie maman avec beaucoup d'amour.
Libanaise.
Elle a grandi dans une famille très riche, elle était très... tu vois, mon papa, il était très à l'époque... il n'avait même pas un job, il a construit son empire tout seul, mon papa. Et avec ma mère, ils ont vécu une vie, de 30 ans, beaucoup d'amour.
Mais toi, t'as eu une vie de ouf, en fait. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça que je veux prévenir, cet épisode, il sera peut-être en plusieurs épisodes. Parce que je sais pas jusqu'où on va aller de discuter, tellement il y a de choses à dire, parce que t'as eu une vie...
Oui.
C'est très bizarre, mais on en viendra peut-être. En tout cas, t'as eu une vie de dingue, et en même temps, non. C'est juste que t'as fait des choix, t'as poussé des portes, t'as osé aller faire des trucs différents. Juste différents, pas dans la norme. Et comme je pense qu'à l'intérieur de toi, tu cultivais des trucs à l'intérieur qui étaient prêts à exploser, on dira à la fin, après, comment on s'est rencontrés, dans quel cadre on s'est croisés, et pourquoi, en fait, j'ai direct su que tu allais venir sur le podcast. Genre les deux premières minutes où je t'ai parlé, je savais qu'il fallait qu'on fasse un podcast ensemble. Et donc, t'as grandi au Liban et tu m'avais raconté que tu faisais des bêtises. Tu grugeais le système. Pourquoi ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Atypique. Enfin, je voulais toujours être la personne atypique. Jamais suivre la norme. Malheureusement, j'étais toujours persuadé que qu'est-ce qu'il faut faire, mais plein de bêtises. Dès que j'étais plus jeune, j'adorais la fête tout simplement, et j'ai compris pour que je puisse faire la fête tranquillement, il fallait beaucoup d'argent. Et mon papa, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais qui était bien, mais tu vois, donc j'étais pas gâté. Et ouais. Donc, il fallait aussi que moi, je cherche à droite et à gauche si j'ai envie de mener cette vie que je voulais avec plein de bêtises, beaucoup de plagers. Donc, on est toujours amené à faire plein de choses. Et donc, j'ai décidé de commencer. La chose la plus simple, c'est de travailler derrière les bars, tout simplement. Et donc, j'ai commencé à travailler. J'ai appris tout seul. Et j'ai commencé par contre avec Elias. C'est c'est la première personne qui a goûté tout.
Mais donc, tu as dû faire des bêtises pour en avis. C'est ça la bêtise ?
Non, pas du tout. C'est comment ça a commencé, comment je me suis lancé, c'est devenir barman. Et après, j'avais 18 ans, j'étais barman. Et les bêtises, c'est.
C'est là que ça a commencé.
À gogo. Allez, barman. On commence une vie où. Je faisais beaucoup d'argent. Barman au Liban, t'es très bien payé. Je viens d'une famille où mon papa, donc il me payait tout. L'école au Liban, c'est un peu différent. Donc il te paye l'école, la voiture, ton université. Donc les papas, la famille, ça s'implique beaucoup, énormément. Et déjà, je prenais beaucoup d'argent de mes parents et ils savaient pas que je bossais en tant que barman. Déjà, la plus grosse bêtise de ma vie, que mes parents, et j'avais une vie cachée, mes parents, ils ne savaient pas qui suis-je, qui j'y étais, c'est qui Camille. Ils pensaient que Camille était une autre personne et qu'ils ne comprenaient même pas comment ce mec-là, il pouvait vivre toute sa vie comme ça. Et au bout d'un moment, mais après quelques années, mes parents, ils ont su que moi, j'étais barman. Et c'était toujours l'histoire que je bossais juste les vendredis et les samedis. Sauf que moi, je bossais toute la semaine, quoi. Et la plupart du temps, je rentrais jamais chez moi, je rentrais jamais chez mes parents. J'avais un petit chalet dans les montagnes au Liban, car à l'époque aussi, je suis devenu moniteur de ski au Liban. Là-bas, c'est facile, tu vois.
J'ai appris qu'on pouvait faire du ski au Liban.
Au Liban, il n'y a pas de désert, il y a de montagnes, il fait froid, il y a les quatre saisons. Fait chaud aussi, il y a les quatre saisons, quoi. Ouais, c'est le petit cliché, quoi, que tu peux faire.
Donc, t'étais barman et moniteur de ski.
Exactement.
Et tout cet argent, alors, où est-ce qu'il passait ?
Tout cet argent, la drogue, déjà, madame. Les chalets, j'avais un chalet dans les montagnes, un autre chalet au bord de la plage, tu vois, c'est les quatre vraies saisons, il faut plonger.
Mais t'avais quel âge ? J'avais 20 ans.
J'avais 19 ans, 19, putain, ouais, 18, 19.
On n'a pas eu la même vie, gars.
À 18, 19 ans, ouais, j'étais barman. Et moniteur de ski, j'avais 17 ans, j'ai commencé à faire... J'étais moniteur de ski, en fait, je séchais mes cours pour que je montais faire de l'argent, pour que je gagne de l'argent à l'époque. Mon père, il me déposait à l'école, et moi, je me cachais, tu vois, je rentrais pas dans l'école. Donc, on était à 2-3, il y avait plein de mes potes que, là, ça revient, je revois les petites images, où mes potes qui venaient... j'avais toujours des potes qui étaient plus âgés que moi, donc il y avait plus de bagnoles. Moi, j'avais 16-17 ans, j'étais toujours au collège, au lycée, pardon. Et ils venaient me prendre, on partait faire une journée de ski. Je mettais toujours des cagoules, tu vois, pour que je n'attrape pas soleil. Et déjà, donc c'était énorme.
Pour pas que tes parents sachent.
Oui, mais je revenais toujours avec un bronzage, quoi, tu vois. Toujours je trouvais des excuses, ou bien je rentrais pas chez moi, ou bien j'avais toujours des excuses pour que.
Mais alors, quand tu dis drogue, du coup, ça veut dire fête ? Ou c'était plutôt pour ta consommation avec tes potes ? C'était dans quel cadre que tu consommais ?
La drogue, c'est parti dans un long délire en plus. Je suis tombé sur la cocaïne.
La cocaïne ?
Ouais, donc au Liban, c'était la drogue à la mode, on va dire, entre guillemets. Tu vois, c'est tu prends la coke, quoi, tu vois. Et tout le monde là va prendre la coke, on est d'accord, quoi.
On est d'accord, je sais pas, j'y vis pas.
Il faut pas qu'on se mente, tu vois, il faut pas. la plupart des jeunes presque. Ou bien, je peux dire, tout mon entourage.
Et ok, bon.
Apparemment, c'est mon entourage car je ne connaissais pas l'autre vie des autres.
Oui, donc, bon. On ne peut pas généraliser, mais on suppose.
Voilà, on suppose. Et travailler barman, travailler moniteur de ski, ça génère beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas dire à mes parents que je fais assez d'argent, quoi. Je ne savais pas quoi faire avec l'argent, des fois.
Ah, pour rare.
Et une fois, ma sœur qui pensait que moi, j'étais un dealer, tu vois, je suis rentré, et donc là, non, ça a pété, quoi. Donc, drogue, quand je disais drogue, quand je travaillais en tant que barman, malheureusement, mon manager, c'était mon dealer. Donc, imagine, tu arrives au bureau, au boulot, à partir de 18h, tu dois ouvrir ton bar, car moi j'étais barman, et j'étais barman avec, au bout d'un moment, j'ai bien progressé, donc je travaillais avec des trucs de high level, toujours avec des fruits, des légumes, donc je suis devenu mixologue, quoi. Et j'ouvrais le bar, et le manager qui vient, il me balance 2 grammes de coke, quoi. Allez, tu me payes la fin de la soirée, quoi. Déjà, toi, tu bosses le soir, tu as 2 grammes de coke. Et j'avais un meilleur pote. C'était mon meilleur ami pendant 3-4 ans, qui s'appelle Cédric. Et Cédric, c'était comme mon bodyguard. Il faisait 1m80, très grand, le mec. Il m'aimait beaucoup. C'était mon petit... c'était la personne que j'ai passé les plus belles années avec lui. On bossait toujours dans le même bar. Et il nous recrutait toujours tous les deux. Et avec Cédric, c'était le mec qui m'a fait rentrer dans tout ça, quoi. Tout simplement. Qui prenait beaucoup de drogue. Il était gourmand. Il mangeait beaucoup, il avait besoin de
plaisir.
Tout. Plaisir, toujours.
Drogue,
plaisir,
il femme. Il associait meuf. Les femmes,
voilà,
ouais, ok.
Voilà, les femmes, les meufs, le street de cabaret à Marmelten, à Jounier, c'est juste à côté de chez nous, donc c'était à 5 minutes de là où on bossait toujours. Il y avait un petit old souk, c'est la baie de Jounier, quoi, au Liban, et le casino du Liban, c'est à Jounier, c'est à 5 minutes, quoi. Et juste au-dessous, c'est un grand street que des super night clubs. Que tu vas là-bas, tu payes 100, à l'époque c'était 100$, et tu rentres, tu fais ta vie, toi. Tu as tout ce qu'il faut, quoi. Mais moi, c'était pas trop notre, tu vois, le truc qu'on faisait, quoi. Mais c'était toujours la drague. Ouais, mais ça faisait partie, quoi. Toujours, on finissait des soirs à 4h du mat. On partait vers un cabaret, on finissait après le cabaret vers le casino. Tout ce qu'on a fait de l'argent. Et être barman au Liban, ça faisait beaucoup d'argent, quoi.
Aujourd'hui d'argent. Encore ?
Aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins, tu vois, car tous les faits tard déjà, après la crise, ce qui se passe au Liban, je pense que ça fait dès 2019-2020, tous les potes libanais, t'en trouves de moins en moins au Liban, quoi. Tu les trouves partout dans le monde.
Oui, ils partent travailler.
Voilà, donc ils partent. Pour les études, pour les masters, ensuite il y a eu une grande crise, l'explosion de Beyrouth, tu vois, il y a eu plein de choses que tous les potes, déjà, tous mes potes, tu vois, c'est mon entourage, les personnes qui sont éduquées, entre guillemets, tu vois, qui ont passé des études, donc ils peuvent partir faire des masters, bosser, tu vois, c'est...
Mais j'en avais parlé avec quelqu'un qui me disait qu'il y avait beaucoup ce truc-là, en fait, au Liban, où les gens ont cherché à, finalement, ces dernières années, s'échapper du pays et de la situation. Et du coup, finalement, il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'étudiants et de jeunes Libanais, mais partout dans le monde.
Ouais, exactement.
Et c'est marrant, mais non, je vois, c'était une manière de s'échapper. Mais à ce moment-là, tu étais encore dans le secteur, la drogue, la fête et tout.
Oui, à fond, quoi.
Et tu n'avais pas du tout démarré de process, genre spirituel, pas du tout. Tu étais vraiment...
Ah non, pas du tout. À l'époque, c'était juste... Je partais à la fac, je partais à la fac d'architecture en plus. Je payais des gens pour qu'ils me fassent mes projets d'architecture.
J'adore.
À la base, donc j'ai un diplôme d'architecture. En plus, je vais finir en architecte d'intérieur. Ok, tu vois, mais je payais pour les gens pour qu'ils me fassent mes projets. Et moi, je faisais ma vie tranquille dans les bars le soir, drogue, de la cocaïne. Je donnais de la cocaïne presque à tous mes profs.
Mais non.
Mais je te jure, presque tous mes profs, ils venaient prendre de la drogue avec moi le soir, là où je bossais. Et on revient pour l'enchaînement, mon manager, c'était mon dealer. Donc il y avait toujours assez pour tout le monde, toujours, beaucoup de drogue,
mais en fait,
non-stop.
Moi, je t'ai tellement rencontré dans un cadre qui n'a rien,
à voir.
Voir que, en fait, ça me fait trop...
Oui.
C'est genre, tu sais, j'imagine, et c'est trop drôle parce qu'en fait, là, vous nous écoutez, vous me connaissez un peu sous un angle, Mais vous pouvez pas non plus imaginer tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, parce qu'en fait, vous pourriez pas une seconde imaginer. Donc en fait, c'est ça que j'adore dans le fait de faire des podcasts avec des gens que je rencontre ou autre, c'est que derrière l'image, le statut, le papier, il peut s'être passé tellement de choses de ouf, et même à travers un réseau social sur lequel tu vois une image, mais ça dit pas tout ce qu'il y a derrière. Et vraiment, je sais pour ça, j'ai ce truc de... Vous qui nous écoutez, je suis sûre que vous avez aussi tous un truc, une histoire. Et c'est ça que j'aime raconter, que j'aime partager, parce qu'en fait, c'est aussi à travers ces histoires-là, et surtout la tienne, qu'il y a énormément de leçons et que je trouve qu'il y a énormément d'apprentissage à avoir, à condition de s'en saisir, parce que tu t'en es saisi.
Oui.
T'es arrivé en France avec... Donc après tout ça...
Après tout ça, en fait, pour la petite
switch
truc,
de passer en France.
Ben oui, en fait, ben, tout simplement, j'ai décidé de venir là avec les potes, ben, pour faire plus de bêtises, quoi, tout simplement. Quoi.
Et la France, ben, ça voilà, représentait quoi?
Ben, tout simplement, au Liban, c'est un pays francophone aussi, donc on parle tous français, donc on a une belle image de la France. Pourquoi pas la France? Ça va, on continue. Déjà, on parle français, donc
c'est facile,
c'est faisable, quoi. Pourquoi pas? Et tout simplement, c'est pour s'échapper à la vie. Moi, je voulais pas bosser. En fait, je voulais encore
faire
la fête. Et vu que mon papa, il me finançait, quoi, c'est bon, quoi. Camille, t'as un feu vert, quoi. Et tout l'argent que j'ai fait tout au long, jusqu'aux mes 25 ans au Liban, depuis mes 18 jusqu'à 25, j'en ai rien, mais rien du tout. J'ai juste...
J'ai tout cramé.
Même, j'ai plus de bagnole, j'ai cramé même ma bagnole en arrivant avant. Donc j'ai détruit tout. Tu vois, j'ai comme si j'avais accès à beaucoup d'argent et j'ai tout détruit. Et là, je regrette rien. Je suis tellement content comment j'ai pu faire ce changement, comment j'ai pu changer énormément et partir faire des bêtises d'un mec.
Tu penses qu'il y en a des gens qui ont été dans ta situation, qui ont continué là-dedans?
Mais oui, ils sont là toujours dedans. Et ça me fait mal au cœur à chaque fois que je revois ces personnes-là. C'est des gens hyper proches à moi, qu'on a le même tatouage, tu vois. C'est des gens qui sont hyper proches à moi. Et quand je les revois, j'ai honte, j'ai mal au cœur. Et je sais, c'est moi. C'est moi qui les a influencés, tu vois. Je me suis lancé dans travailler dans les bars. Et tous mes potes, ils venaient tous les soirs chez moi.
Parce que les bars, ils n'étaient pas dans ce milieu-là.
Non, ils étaient... En plus, c'était la découverte. On avait 18-19 ans, quoi. Donc à 18 ans, c'est encore, on est flou, on connaît pas, tu vois, on est en train de découvrir.
Mais peut-être que heureusement que tu avais eu la structure éducative et familiale pour être en capacité de faire ce travail de réveil et de ok, attends, est-ce que c'est vraiment vers ça que je veux aller?
C'est ça, et je me suis vu tellement, j'ai pleuré il y a plein de fois où je rentrais, où je pleurais, j'étais pas bien, je me rapprochais de Dieu de temps en temps. J'essayais de faire de tout pour que je sors après 2-3 ans de mes foules addictes. J'étais au Liban, quoi. Mmh. Je me levais le matin, je prenais une trace de coke et je continuais ma journée, quoi. Je partais à l'école, je conduisais, je prenais de la trace, une trace en conduisant, mais il y avait zéro respect, quoi. Tu vois, on buvait en conduisant, c'était... Mais la folie, quoi, c'est pas normal, quoi. Là, aujourd'hui, si je repense, je sais pas comment j'ai pu... C'était en vivant, je suis toujours vivant, moi, après toutes ces petites histoires avec...
Toutes ces conneries,
toutes les fois où j'étais bourré en train de conduire, en train de faire... Non, mais...
Et tu revois tout ça et tu vois, aujourd'hui, t'es là, qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, en parlant, juste, ça m'a fait remonter l'histoire où, quand j'ai fait mon accident...
T'as eu un accident de voiture?
Ouais, j'ai eu un grand accident de voiture qui m'a marqué ma vie. Que je suis toujours vivant, je sais pas comment, mais je sais pourquoi, c'est la cause, c'est une fille qui m'a sauvé la vie en plus. En fait, je rentrais chez moi, c'était le dernier soir, et pour ce petit truc, c'est un truc un peu qui me fait remonter, un truc spirituel, que moi je crois au Liban, il y a un saint qui s'appelle Saint Charbel. Mmh. Et Saint Charbel, c'est un saint qui est très connu au Liban, qui a fait plein de miracles partout, dans tout le monde. Et, et ce jour-là, mon père, il m'avait obligé de partir avant que je voyage, que je rentre en France, de juste partir, vite fait, donc voir le tombeau. Moi, j'ai accepté. Au bout d'un moment, mon père, il n'arrêtait pas de râler, quoi. Donc j'ai dit oui. Je suis parti et mon papa, il m'avait mis une petite croix de Saint-Charbel. Ouais. Il m'a dit, on a deux. Il m'a offert une, on avait le même. Et le soir même, je suis parti, j'ai bu, j'ai picolé. En rentrant, je suis pas arrivé chez moi. Tout simplement, mon 4x4, j'avais un grand 4x4, qui est tombé, mais l'autoroute, il a fait, j'ai tourné deux fois sur l'autoroute, une autoroute de 120 km. Et je me suis retrouvé,
La
voiture à l'envers, les pieds dans l'air, je sais rien du tout, j'étais dans un choc. Une fille qui s'arrête sur une autoroute avec des talons, qui vient, qui me cherche, qui ouvre la porte de mon 4x4 qui est très grand, qui était très grand, donc moi j'avais pas
tous
un 4x4 normal.
Tous des 4x4 au Liban, c'est ça?
Ouais, j'avais un grand 4x4, mais là c'est bon, c'est pas grave. c'est elle qui m'a retiré ma ceinture, qui m'a mis à l'extérieur de mon 4x4, et même pas 3 secondes après, il y a un autre 4x4 qui vient et qui m'écrase de nouveau. Donc imagine juste moi
à l'intérieur. Non,
à l'intérieur. Donc moi j'ai eu un choc ce jour-là, j'étais en train de pleurer.
T'avais quel âge?
J'étais en France là, j'avais 28 ans, mais j'étais dans les vacances.
D'accord,
quoi.
Ok.
J'ai pris des vacances, quoi. Et j'avais le petit verre de whisky à côté de moi, vu qu'au Liban tu peux boire et conduire, c'est normal. Donc quand je me suis renversé, donc tout le verre de whisky qui s'est renversé sur moi-même, donc je pleurais, tu vois, et c'était tellement... Voilà. Je suis toujours vivant. Ça, c'est l'histoire pour faire... Je pense que ma mère, c'est ça qu'elle me disait toute sa vie, c'est qu'elle priait beaucoup pour moi, pour que je reste vivant. Donc, elle a trop prié pour moi pour que je reste une seule pièce.
Avec des cicatrices, mais une seule pièce.
Partout, quoi.
Mais attends, mais du coup, cet accident de voiture, est-ce que c'est ça qui a déclenché peut-être un process?
Oh, oui.
C'est ça?
Exactement. C'est cet accident que j'ai dit « Oh, tu ne peux plus vivre comme ça, avec tellement de chaos, tu ne peux pas vivre comme ça, tu ne peux pas vivre toujours dans une vie comme ça. Il faut que tu te calmes, il faut que tu changes tes habitudes, tu t'arrêtes de faire la fête, tu vois. » Et là, on reparlera, mais quand je suis arrivé en France, c'est à ne pas comparer aussi. Donc, j'ai fait pendant 5 ans... la folie, quoi.
Ah ouais?
Ouais, jusqu'à mes 29 ans, c'est le jour où j'ai dit, tu sais quoi, tu t'arrêtes tout. Et à mes 30 ans...
C'est récent!
Ben oui,
c'était il y a 3 ans.
3 ans, quoi. Et les trentaines, quoi, c'était où j'ai tout bouleversé, quoi. C'était la crise, quoi.
Spirituelle?
Spirituelle, à fond spirituelle.
Et alors, oui. Du coup, cet accident qui pète tout. Mais moi, j'ai une question, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Tout au long de ces années... tu te considérais comment en tant qu'homme? En tant qu'homme vis-à-vis du coup de tes relations?
Waouh.
Toutes ces années de fête, je veux dire, de,
ouais.
de 20...
Non, mais c'était toujours dans la bienveillance et du respect. Je me considérais comme le mec, j'avais beaucoup d'ego, toujours qui prenait très soin de lui-même, et de son entourage. Donc j'étais bien connu aussi, donc j'étais Camille... le mec pour faire la fête, tu vois, personne me prenait au sérieux, quoi. C'était où même mes potes, là, je pense un jour il va, je sais pas s'il va l'écouter, quoi, mais ce mec là c'est lui qui me disait tu es le mec de la fête, you are the spirit of celebration, et c'est tout, quoi. Personne ne te prend au sérieux, juste quand on a envie de faire la fête, dès qu'on a envie d'avoir des good vibes, c'est toi. Donc et ils ont commencé à me mettre ça dans la tête, quoi. Et tout au long de ces années là quoi, j'étais le mec qui faisait beaucoup de fêtes, mais toujours en se respectant, en respectant les autres, mais je ne me respectais pas moi-même, quoi. Beaucoup de drogue, beaucoup de soirées cheloues, beaucoup je finissais je ne sais pas où, 2-3 jours de non-stop de fête.
Tout type genre, de drogue. Genre moi, mais laisse-moi survivre avec une nuit blanche. Je suis pas encore passée au level expert, mais je préfère pas tester jusque-là. J'ai vu certaines choses, j'ai vu un aperçu de certaines choses et je suis contente de ne pas être allée aussi longtemps comme toi.
Écoute, moi, il y a plusieurs types de vie. En plus, barman au Liban qui est différente de vivre la fête, les festivals en France.
Oui, bien sûr.
C'est un changement, mais...
Et tout au long de ces années-là, tu as eu beaucoup de relations amoureuses?
Oui, j'ai eu beaucoup de relations amoureuses. J'en ai eu une, la première, la plus longue... de 4 ans, quoi. C'est avec une meuf qui s'appelle Christelle, qui est là aujourd'hui en Californie. Mais c'est le jour où je suis parti de Liban, j'ai tout fermé, j'ai tourné toute une page, une grande page. On était ensemble pendant 4 ans. Et le jour où j'ai décidé de partir en France, c'est fini. Elle n'a rien compris, la meuf. Elle est partie en Californie après. C'est pas compliqué, mais pour elle, elle attend toujours qu'on se marie un jour. Mais sauf qu'on se ressemble.
Elle
n'a
jamais
plus.
Fait
non,
la croix.
Pas du tout. Et elle est toujours. Ça me fait mal au cœur jusqu'à aujourd'hui. J'ai brisé plein de cœurs comme ça dans ma vie. Aujourd'hui, je suis conscient, je prends soin, car j'étais tellement. Je m'en foutais, quoi. J'avais beaucoup d'argent, j'étais bien, gros connard, quoi. Faisais beaucoup de fêtes, mais en même temps.
Mais tu respectais.
Respectais beaucoup, quoi. Mais en même temps, c'est les énergies qui venaient vers moi. J'étais toujours bien. J'étais toujours. Je savais bien faire les choses, toujours. Tu vois, ce qui attirait tout le monde vers moi, même. J'avais beaucoup de potes, j'ai jusqu'à aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui est extraverti, qui a besoin beaucoup du social,
mais
des gens qui sont avec
lui. Mais tu ne vas pas facilement vers les gens.
Pas du tout. Là, j'ai appris à ne plus partir vers les gens, car tout ce qu'il y a vers moi, donc j'en ai tout, quoi. Je n'ai pas besoin de rajouter encore des énergies, mais sauf que je me retrouve, c'est la contradiction, que je me retrouve toujours, j'ai besoin des nouvelles énergies, mais aujourd'hui, je suis plus conscient comment choisir ces nouvelles énergies.
Mais après, tu les conserves ? Ou tu te lasses et tu cherches de nouvelles ?
Ça dépend de... moi, je crois de plus en plus, on n'est pas fait pour être pour tout le monde, déjà. C'est pas que tout le monde doit matcher et être la personne qui peut plaire à tout le monde, déjà. Donc, au bout d'un moment, il y a plein de choses, des valeurs, des normes, des choses qui nous ressemblent, juste des ressentis. On est qui déjà aujourd'hui ? On est entouré par les gens. C'est les gens, tu vois,
qu'on choisit.
C'est notre vie, quoi. Et là, aujourd'hui, ça change. J'étais tellement dans des relations amoureuses à droite et à gauche, des plans cul, donc j'ai brisé plein de cœurs aussi. Malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai grandi comme ça, à apprendre de mes fautes, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, qui m'a appris plein de choses, mes relations. Mais aujourd'hui, moi, je trouve. Que ce soit des relations amoureuses, amicales, peu importe, c'est le plus important c'est d'essayer de comprendre, de gagner et de ne rien perdre. Tu perds rien. À chaque fois que tu vas croiser une nouvelle personne, tu vas connaître, apprendre une nouvelle personne. Tu vas grandir émotionnellement, physiquement. On est en train de grandir tous les jours. Donc ça t'apporte plein de choses. Donc
Tu regrettes la manière dont... justement, cette personne qui ne s'en remet pas, entre guillemets, est-ce que tu regrettes ? Comment tu vois les choses aujourd'hui ? Est-ce que tu aurais fait différemment avec ton regard d'aujourd'hui ? Ou pas ? Ou est-ce que c'est elle qui avait finalement trop de blessures et qui, du coup, de toute manière, tu ne pouvais rien faire ?
Je ne pouvais rien faire. On était dans deux continents différents, oui. Déjà. C'était trop loin. Et tu vois, l'attirance, au bout d'un moment, ça m'attirait plus de moins en moins. Et je trouve que j'ai tellement grandi et j'ai tellement changé que... on matchait plus, quoi. Et au bout d'un moment, là, ce qu'elle est en train de vivre, c'est ce que moi j'ai vécu il y a 5-6 ans. Elle vit dans le chaos que moi que je le vivais
quand
avant.
Quand t'étais dans la période à fond, ouais. Elle fait ça là.
Ouais. Et mais elle, pour elle, avant, c'était tu fais quoi, tu te changes, tu es trop dans la drogue, il faut pas. C'était ma voisine. Et on est restés ensemble au Liban 4 ans. C'était ma dernière relation au Liban sérieuse avant que j'arrive en France, quoi. Mais avant même, j'avais aussi pas mal des petites relations. Je regrette, oui, car je savais pas quoi faire. Donc c'était comme ça toujours. On apprend de nos erreurs, quoi. Mais je regrette pas, mais je pouvais faire différemment. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend et on progresse.
Et maintenant, ta vision des choses, elle est comment ? Parce que du coup, t'as eu des apprentissages avec ce risque de la mort. C'est ça qui t'a un peu secoué et que t'as dit ok, je ralentis. Donc tu t'es plus concentré sur toi.
Yes.
Tu t'es plus renfermé.
Pas du tout. En plus, il y avait le Covid. C'était après le Covid. Après, donc on est tous. J'ai repensé, j'ai pris de recul ma carrière déjà. Donc moi, pour que je te vite fais, donc moi j'ai fait des masters dans le management, dans le commerce international. Rien à voir avec mon diplôme d'architecte. J'ai mis de côté tous les 5-6 ans que j'ai, entre guillemets, pas galéré, quoi. Ouais. j'ai fait la fête, quoi, mais il y avait quelqu'un qui me... En fait, c'est le truc qui m'a permis d'ouvrir d'autres pages. Et je suis arrivé ici et j'ai fait des masters en management. Et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'affaires. Ça ne me plaisait pas du tout. Je ne pouvais pas bosser de 9 à 5. Je ne m'entendais pas du tout avec les gens autour de moi. Le matin, je ne pouvais pas m'intégrer. J'ai vécu toute ma life, le nightlife. Et même au Liban, donc je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas d'un jour où je me suis couché avant 6h, 7h du matin, quoi.
Ouais, donc avec le confinement, tu avais switché complet de vie, quoi.
Même avant le confinement, quand je suis arrivé en France, après que j'ai validé mon deuxième master, j'ai commencé. Après, c'est là où j'ai eu mon accident. En fait, c'était la veille où je devrais revenir en France pour que je commence mon nouveau taf.
D'accord.
Et j'étais un peu. J'ai pris ce recul. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te calmer. Tu commences un nouveau taf. Tu commences une nouvelle vie. Tu t'arrêtes le nightlife. Tu t'arrêtes avec tout ça. Tu te concentres sur toi-même, tes objectifs. Je pensais que moi, je voulais bosser de 9 à 5, faire une carrière. Mais au bout de 2 ans, j'ai compris que non, c'est pas fait pour moi. Je n'ai pas envie de finir ma vie comme ça. Et donc, c'est là où j'ai eu un grand booming et j'ai décidé de partir à Tenerife. Bah, après que c'est terminé avec mon ex, voilà, donc en France, pour revenir, j'étais avec juste le dernier jour du confinement. J'ai croisé une meuf russe et on s'est mis ensemble pendant 1 an quelques où on habitait ensemble. C'était là où ça faisait 4-5 mois après mon boulot, où j'ai commencé mon nouveau job sur Paris en tant qu'ingénieur d'affaires, que j'aimais pas. Et donc j'ai croisé cette meuf-là, on a habité ensemble, c'était là le bordel où j'étais en coloc avec deux de mes meilleurs potes, là on ne se parle plus, on a eu plein d'histoires dans notre petit appartement de duplex à La Défense, donc à Pito, c'était la folie quoi, on a fait la folie. Et après, mais le timing, comment on parle des choses, ça revient, pardon.
C'est un peu désordonné.
Désordonné.
C'est super dur de suivre, franchement ouais. Je suis désolé.
Ouais, mais
t'as eu une vie trop remplie. Cet accident, il est arrivé quand de voiture?
C'était en 2018.
Et 2018. Elle est arrivée après le confinement.
Oui, après le confinement.
Mais du coup, pourtant, t'avais déjà eu ton début de réveil un peu.
Exactement. Donc, j'ai eu mon début de réveil. J'ai commencé à changer mon alimentation déjà après mon accident. J'étais traumatisé. J'ai eu peur. Je pouvais plus sortir. Je pouvais plus conduire tout au début. J'avais eu tellement peur. Et la réaction, j'ai pris un peu de temps pour que je me calme. Et c'est là où j'ai compris que moi, je peux me calmer tout seul. Je dis, tu te calmes, tu t'arrêtes la drogue. J'ai été clean pendant 1 an, je pense. C'est là où j'ai croisé aussi ma meuf. Et c'était après qu'on a habité 1 an où je me sentais pas bien. C'est là où tout a changé. Le truc, avec elle, on s'est. Je mangeais bien, on était lancé. Je suis devenu vegan. J'ai arrêté de manger de la viande, tout ça, donc même tout ce qui est sucre, sel, donc j'ai suivi un régime alimentaire dur, ce qui m'a rendu plus puissant. Je me suis reconcentré sur moi-même, sur ce que j'ai envie de faire. J'ai décidé de partir pour un petit week-end à Tenerife. Je suis resté 1 mois, je suis revenu sur Paris, j'ai quitté mon job, je suis reparti à Tenerife. Et là,
oula, qu'est-ce qui s'est passé à Tenerife quand on est arrivé?
Là, on se lance dans la spiritualité.